Exode, chapitre 4, nous lirons à partir du verset 10. Exode, chapitre 4, à partir du verset 10. Je n'ai pas vu Espérance MB ce matin. Elle est là? Non. Alléluia! Exode, chapitre 4. Ayez l'habitude d'avoir un cahier, pas de papier. Les papiers vont s'envoler. Est-ce que quelqu'un me suit? Le jour où on vous surprendra pour prêcher, exhorter quelque part, vous n'avez qu'à prendre votre cahier et à relire les notes que vous avez prises et ce sera fait. Ne cherchez pas à devenir un grand prédicateur du jour au lendemain, à commencer à interpréter par vous-même des textes que vous risquez de sortir hors de leur contexte. Et un texte en dehors de son contexte n'est qu'un prétexte. Faites très attention. Exode chapitre 4. À partir du verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Verset 17. « Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. » Moïse s'en alla, et de retour au pays de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, « Va en paix. » L'Éternel dit à Moïse en Madian, « Va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, « Vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te le dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Amen. » Amen. Je crois que les gens disent, « Ah, le pasteur est sur ce texte depuis plusieurs dimanches. » Et c'est vrai. Mais ce matin, je crois même que je n'aurai pas le temps de finir ce texte. Le thème que je donne à l'exhortation de ce matin se trouve est tiré du verset 27. Prends dans ta main cette verge. Et au verset 20 où il est dit, il prit dans sa main la verge de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, prends le bâton de Dieu. Prends le bâton de Dieu dans ta main. Moïse a tué un Égyptien. Il a fui. Oh Seigneur, merci. Non pas parce qu'il a tué un Égyptien, mais parce que je vois que Dieu va se servir d'un assassin qui s'est tourné vers lui. Je parle à quelqu'un. Si c'était toi, tu n'aurais plus jamais choisi Moïse. Dieu va dire à Pierre, quand tu reviendras, Simon Pierre, même tu, oui Seigneur, il dit, paie mes brebis. Il va se servir de quelqu'un qu'il avait renié trois fois. Alléluia! David a pris la femme de quelqu'un. David a tué quelqu'un. Et c'est lui que Dieu va dire, tu vas monter sur le trône d'Israël. La grâce de Dieu. Dieu ne regarde pas à toutes les fautes que tu as commises dans le passé. Ce qui compte pour Dieu, c'est le jour où tu t'es tourné vers lui, tu t'es repenti de tes péchés et tu as conclu une alliance avec lui. Le diable te rappellera ton passé, mais dis-lui, mon passé n'existe plus aux yeux du Seigneur. Alléluia! Tu as beau être voleur, tu as beau être assassin, tu as beau être adultère, mais le jour où tu as donné ta vie à Jésus, par le sang de l'agneau, tes péchés ont été effacés, tes péchés ont été pardonnés. La Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature. Lorsque le diable vient pour te culpabiliser, lorsque le diable vient te dire tu as avorté 36 fois, lorsque le diable vient te dire tu as pris les maris ou les femmes d'autrui plusieurs fois, dis-lui maintenant je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et si le Dieu qui m'a fait grâce veut se servir de moi, il ne regardera pas à mon passé. Il ne regardera pas ce que j'ai fait il y a des années. Il regardera à ce que je suis devenu. Un enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus. Et je suis saint et je suis pur, sans défaut, sans tache. Non pas par moi-même, mais parce que lavé, purifié par le sang de Jésus. Ce qui me rend joyeux lorsque j'aime Dieu, lorsque je parle de Dieu, c'est lorsque je regarde mon passé, c'est lorsque je regarde ma rébellion, c'est lorsque je regarde ce que j'avais été. Et puis il m'a pardonné, il m'a lavé, il m'a racheté, il m'a sanctifié. Voilà pourquoi de moment, même quand on m'est fait mal, je dis Seigneur, tu m'as pardonné, je dois pardonner. Il dit à Moïse, un assassin. C'est lui, c'est Moïse qu'il va, c'est de Moïse dont il va se servir. Moïse a fui dans le pays des Madians. Moïse s'est marié dans le pays des Madians. Moïse a des enfants dans le pays des Madians. Et puis un jour, il doit retourner en Égypte parce que son peuple était encore esclave en Égypte. Et Dieu lui dit, Moïse, ne va pas les mains vides devant Pharaon. Et parle à quelqu'un. Comme David, David ne s'est pas présenté les mains vides devant Goliath. Frères et sœurs, Dieu a mis entre nos mains des outils, des instruments, des armes puissants pour renverser la puissance de Pharaon. Je parle à quelqu'un. Si tu ne le crois pas, je t'enseignerai ces choses jusqu'à ce que tu comprennes et que tu crois. Dieu ne nous demande pas de nous présenter les mains vides devant les puissances des ténèbres. Dieu ne nous demande pas de nous présenter les mains vides devant les sorciers ou les magiciens, devant les devins, les chaldéens. Dieu a mis entre nos mains des armes, des instruments, des outils avec lesquels nous remporterons des victoires devant l'ennemi. Nous accomplirons des prodiges devant l'ennemi pour que l'ennemi comprenne que celui qui nous a sauvés, qui nous a envoyés, c'est le Dieu Tout-Puissant assis sur son trône, régnant d'éternité en éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Le problème, c'est que nous négligeons ces armes. Le problème, c'est que nous ne nous servons pas véritablement de ces armes et de ces outils que Dieu a mis entre nos mains. Et c'est de cela que nous allons parler, peut-être aujourd'hui et certainement encore, lorsque Dieu nous donnera la grâce. Mais nous allons d'abord revenir au texte que nous avons lu au commencement. Alléluia! Je voudrais nous enseigner quelques vérités fondamentales que nous pouvons, quelques leçons fondamentales que nous pouvons tirer de ce texte. Regardez le verset 10. Moïse dit à l'Éternel, « Oh Seigneur, mon Dieu, tu m'as choisi pour aller parler à Pharaon. Mais moi, je ne sais pas parler. Moi, je suis un homme qui bégaye. » Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Je crois même que quand il disait à Dieu, moi, je parle bien. Il disait, « Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. » Envoie qui tu veux envoyer. Quand nous étions gamins, on nous disait que quand quelqu'un commence à bégayer, que tu fais comme ça, il bégaye encore. C'est pas vrai, mais c'était ce qu'on nous disait. Alléluia! Et parfois, vous voyez la souffrance de quelqu'un qui bégaye. Vous voyez comment il est en train de peiner, de souffrir pour faire sortir les mots, pour aligner les phrases. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés frères. C'est un homme comme ça, un homme dont la langue est embarrassée. Un homme qui a une difficulté énorme à parler. Que Dieu va utiliser. Il dit, c'est toi que j'ai choisi et c'est toi qui vas aller parler au Pharaon. Moïse lui dit, non. Non! Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Regardez mes frères et sœurs. Si tu étais à la place de Moïse, si j'étais à la place de Moïse, j'aurais dit, Seigneur, c'est bien, tu m'as choisi. J'ai la langue embarrassée. Je ne sais pas parler. Je bégaye. Mais si tu veux que j'aille, tu es le Dieu Tout-Puissant. Touche-moi. Débarrasse-moi de ces bégayements. Que je parle correctement et j'irai, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que Dieu ne va pas libérer Moïse de son bégayement. Je ne sais pas si le mot existe. Merci. Dieu ne va pas libérer Moïse de son bégayement. Il va continuer à bégayer, mais Dieu avait une autre solution. Dieu avait une autre solution, mes frères et sœurs. Il avait la solution, laquelle? Il y avait Aaron, le frère de Moïse. Il lui a dit, même si tu ne sais pas parler, même si tu bégayes, qui a créé la langue? Écoute bien, je vais utiliser ton frère. Tu seras pour lui comme Dieu. Je mettrai les paroles dans ta bouche. Tu transmettras ces paroles à ton frère et ton frère parlera devant Pharaon. Je parle à quelqu'un. Dieu avait une solution face aux objections de Moïse, face à ce qui paraissait une difficulté pour Moïse. Dieu avait déjà trouvé une solution en la personne de Aaron. Alléluia! Je voudrais dire à quelqu'un que Dieu a toujours une solution à quelque problème que ce soit. Le vendredi, nous avons vu tous ces hommes qui étaient devant la piscine de Bethesda. Il y avait des boiteux, il y avait des aveugles, il y avait des paralytiques. Et la Bible dit que lorsque l'ange de Dieu descendait, que l'eau était agitée, la personne qui entrait la première dans l'eau était guérie de sa maladie, quelle qu'elle fût, quel que soit le nom de la maladie. Même si cette maladie n'avait pas été citée sur la liste, c'est-à-dire que Dieu a la solution à n'importe quelle maladie, à n'importe quel problème, à n'importe quelle difficulté. Je parle à quelqu'un. Pendant que toi tu vois les objections, Dieu voit déjà les solutions. Pendant que tu vois les difficultés au devant de toi, Dieu voit les solutions qui sont à côté de toi. Je voudrais inviter quelqu'un, exhorter quelqu'un ce matin à avoir les yeux de Dieu pour voir que même là où il y a des murailles. Il se dit, je vois des murailles, mais d'un autre côté, je vois la puissance de Dieu à l'œuvre. Même si je vois la mer rouge devant de moi, elle m'effraie, elle m'intimide. Mais avec les yeux de l'esprit, je vois la puissance de Dieu capable de couper les eaux. Je vois la puissance de Dieu capable de briser le célibat. Je vois la puissance de Dieu capable de briser la stérilité. Je vois avec les yeux de la foi. Je me refuse de me plier aux objections, aux choses visibles que je vois. J'ai les yeux pour voir l'invisible. J'ai les yeux pour voir ce que les autres ne voient pas. J'ai les yeux pour voir la gloire de Dieu, pour voir la puissance de Dieu et pour croire qu'il y a une solution à mon problème. C'est pourquoi je ne suis pas abattu. C'est pourquoi je refuse d'être désespéré, parce que tant que je vis, il y a de l'espérance et je sais que mon Dieu agira. En son temps, il agira. Il agira certainement. En son temps, il agira. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Dieu est bon. Alléluia. Il a envoyé le premier Adam. Le premier Adam a échoué. Et Satan s'est dit, c'est terminé. Quand il est allé dans les jardins d'Éden, il a dit, oh, vous savez, Dieu vous a menti. Et il vous a défendu de manger de cet arbre parce que le jour où vous allez manger, vous deviendrez comme lui. Ils vont manger le fruit. Ils ont échoué dans la mission de Dieu. Satan s'est dit, bravo, j'ai gagné. Et il ne savait pas que Dieu avait un plan B. J'aime le Dieu de mon salut parce qu'il a toujours un plan B. Si le plan A échoue, même à cause de toi-même, même à cause de moi-même, il a le plan B. Il va envoyer le second Adam. Qui enverrai-je? Ni archange, ni ange, ni séraphin. Jésus a dit, me voici, envoie-moi pour accomplir ta volonté. Il est venu et il a écrasé la tête du serpent. Même si le premier Adam a échoué, le second Adam a réussi. Et il a brillamment réussi. C'est pourquoi à la croix, il pouvait dire, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Alors je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu vois des objections. Très bien, ça c'est avec les yeux physiques. Mais avec les yeux de l'esprit, tu dois voir des solutions parce que Dieu voit des solutions. Et dit Moïse, c'est toi que j'ai choisi. Quand vous lisez Exode chapitre 2, la Bible nous dit que Moïse était un homme très beau. Très beau. C'est comme ça que quand sa mère l'a eu, il a regardé, il dit, bel enfant comme ça, je ne vais pas le tuer, je vais le cacher. Parce qu'à cette époque-là, les enfants qui naissaient, quand ils étaient mâles, on devait les tuer. Un bel enfant. Mais vous voyez, il était très beau de visage, mais il bégayait terriblement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il était très beau. Comment on dit pour les hommes en anglais? Handsome. He was very, very. Très beau. Mais quand il commençait à parler, c'était un problème. Je parle à quelqu'un. Et c'est comme ça qu'il dit à Dieu, je ne veux pas accomplir cette mission parce que je ne sais pas parler. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner comme leçon par là? Dieu veut nous donner la leçon suivante. Dieu veut nous donner la leçon suivante. Alléluia. Nul ne peut se suffire à lui-même. Est-ce que tu me comprends? Nul ne peut se suffire à lui-même. Dieu ne nous a pas créés complets. Tu peux être beau et avoir la langue embarrassée. Et à cause de cela, tu as besoin de quelqu'un qui n'a pas la langue embarrassée pour te servir de porte-parole. Parle à quelqu'un. C'est-à-dire, chacun de nous a besoin de l'autre. Parce que Dieu ne t'a pas créé complet par toi-même. Pour te rendre humble, il a mis en toi des choses qu'il a mis. Et il y a certaines choses qui sont en toi, qui ne sont pas chez l'autre. D'autres choses sont chez l'autre, mais ne sont pas en toi, pour que nous devenions complémentaires les uns des autres. Nul ne peut se suffire à lui-même. Même un président de la République ne peut pas dire « Je suis président de la République, ça ne me suffit pas moi-même à diriger le pays. » Il a besoin des parlementaires, il a besoin de l'opposition. C'est pourquoi je suis toujours désolé de voir dans les pays d'Afrique que la plupart de nos chefs d'État n'aiment pas l'opposition, sans opposition. Comment pouvez-vous corriger les erreurs et les fautes? Écoutez-moi bien, je ne peux pas prêcher comme ça en Afrique. Dites « Amen ». C'est parce que je suis ici que j'ai dit ça. Mais comme les cassettes voyagent, ce n'est pas un problème. Ça, c'est différent. Alléluia. Dites un bon Amen. Dites un bon Amen. Ce que tu n'as pas, tu peux le trouver chez l'autre. Tu peux l'avoir chez l'autre. Alléluia. On a tous besoin les uns des autres. C'est pourquoi la Bible nous demande de vivre en paix les uns avec les autres. Autant que cela dépende de vous, vivez en paix avec tout le monde. Parce que vous ne pouvez pas vous suffire à vous-même. Imagine que ce dont tu as véritablement besoin se trouve chez mon frère ici à côté et que je suis en mauvais terme avec lui. Je souffre, mais je vois. Il possède, il peut me donner. Mais parce que je ne vis pas en paix. Et quand la veuve qui est venue voir Élisée en lui disant « Mon mari est mort, le créancier est venu, il veut prendre mes enfants comme esclaves, je n'ai rien. » Élisée lui dit « Qu'est-ce que tu as ?» Il dit « J'ai un peu d'huile, homme de Dieu. » Il dit « Va chercher des vases chez tes voisins. Autant que tu peux trouver, va chercher des vases chez tes voisins. » Imaginons que cette femme avait des problèmes, avait des conflits, avait des querelles avec tous les voisins. Où est-ce qu'elle allait trouver des vases pour qu'Élisée accomplisse en sa faveur les miracles? Mes frères et sœurs, les problèmes ne manquent pas. Quand les problèmes arriveront, essayons d'arranger. Essayons de nous entendre. Essayons de nous pardonner. Même les disciples du Seigneur à côté de Jésus se chamaillaient. La chamaillerie, ce n'est pas ça qui est grave. C'est lorsque la haine est gardée dans les cœurs. C'est lorsque l'amertume est dans les cœurs. C'est lorsque l'esprit de vengeance germe dans nos cœurs. C'est là que ça devient toxique, non seulement sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel. Vivons en paix parce que nul ne peut se suffire à lui-même. Moïse, tout beau qu'il était, choisi par Dieu pour accomplir la mission que Dieu lui avait assignée, avait besoin de son frère Aaron. Plus tard, lorsque Moïse sera en train de combattre les Amalécites, nous sommes dans Exode au chapitre 17, qu'est-ce que nous allons voir? Il dit, Josué, choisis des hommes, tu vas combattre dans la vallée. Moi, je monterai sur la montagne pour prier. Quand il est monté sur la montagne, la Bible nous dit, quand Moïse élevait les mains, Israël était le plus fort. Quand il baissait les mains, Israël était vaincu dans la vallée. Alors Aaron et Hur ont fait quoi? Ils ont tenu les bras de Moïse. L'un a pris la main droite, l'autre a pris la main gauche. Ils ont soutenu les mains de Moïse et les mains de Moïse sont restées comme ça vers le haut jusqu'au soir. Et c'est ainsi que Josué dans la vallée avait réussi à avoir la victoire sur les Amalécites. On a tous besoin, même parfois du plus petit que nous. Alors ne sois pas arrogant. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas autosuffisant pour dire « Nami Koki, je me suffis à moi-même parce que j'ai maintenant un salaire de 100 000 $ par mois, je me suffis à moi-même. » Un jour, tu auras besoin d'un médecin qui gagne 1 000 $. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vis en paix avec tout le monde, cherche la paix, cherche la paix. Il y a des gens qui croient que, oui, parce qu'il roule dans je ne sais quelle voiture, il se suffit à lui-même. Le jour où tu auras une crevaison de pneus, le moteur est en panne, tu auras besoin d'un mécanicien. Vrai ou faux? Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, ne t'en fais pas, Moïse. J'ai une solution. Dites Amen. Je vais me servir de ton frère Aaron. Il sera ton porte-parole. Dieu pouvait toucher Moïse, juste le toucher, puis pouf, La langue devient agile. Il commence à parler, la langue devient exercée. Mais Dieu ne lui enlève pas cet handicap. C'est comme l'apôtre Paul, il dit, j'ai prié 3 fois pour que tu m'enlèves les chardes. Il avait une espèce de bosse dans le dos. Pour que tu m'enlèves les chardes qui est sur mon dos. Mais Dieu lui a dit, je ne te l'enleverai pas. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce n'est pas parce que tu as un défaut, entre guillemets, physique, que Dieu ne peut pas se servir de toi. Je voudrais que quelqu'un dise Amen. Ah. Il y a des gens, quand ils se regardent dans un miroir, ils disent, oh, oh, moi j'ai tel défaut, moi j'ai tel défaut. Je voudrais dire à quelqu'un, un, tu as besoin de l'autre. Dis à ton voisin, j'ai besoin de toi, mon frère. J'ai besoin de toi, ma sœur. Alléluia. Comment pouvez-vous comprendre que l'apôtre Paul puisse dire aux chrétiens d'Éphèse, il dit, priez pour moi, pour que quand il m'est donné d'ouvrir la parole pour annoncer l'évangile, priez pour moi. Un grand apôtre comme Paul avait besoin de la prière des simples fidèles des églises qu'il avait implantées. Nous avons, nous pasteurs, aussi besoin de vos prières. Au lieu de passer du temps à me critiquer, prends un jour de jeûne pour moi, prie pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a tous besoin les uns des autres. On a tous besoin les uns des autres. Alléluia. Et ce n'est pas parce que tu as un défaut physique, comme je viens de le dire, entre guillemets, que Dieu ne te trouve pas comme l'homme de la situation ou comme la femme de la situation. Quand tu te regardes dans un miroir et que tu te trouves plein de défauts, Dieu ne te trouve pas plein de défauts. La Bible dit, je suis une créature merveilleuse. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, arrête de vivre avec des complexes. Arrête de regarder toujours chez Eva Longoria pour dire si j'étais comme Nicole Kidman. Moi, je suis moi. Brad Pitt, c'est lui. Je suis une créature merveilleuse. Tu peux me trouver tous les défauts que tu veux. Dieu m'utilisera. Même si j'ai une écharde dans la chair et que je marche, je ne sais trop comment, Dieu m'utilisera. Parce qu'à ses yeux, je suis une créature merveilleuse. Parle à quelqu'un. Arrête de vivre avec des complexes. Oh, si j'avais le nez comme ça. Hier, j'étais en train de suivre les informations et la cousine de William d'Angleterre s'est mariée. Vous avez suivi ça, non? La cousine de William. Et la reine lui a dit à son mari, écoute, c'est un ancien joueur de rugby. Vous connaissez le rugby? Je ne comprends rien à ce sport-là. Je ne peux pas comprendre comment des gens vont se taper dessus comme ça. Ils n'ont pas mal, ils continuent à se taper dessus juste pour lancer un ballon ovale entre deux poteaux. Mais qu'importe. La reine mère a dit à son mari, ton nez est à cause de ton sport là, ton nez est assez cabossé. Essaie d'aller faire un peu de chirurgie esthétique. Et le monsieur a dit, non, je resterai avec mon nez cabossé et j'épouserai ta petite fille. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui se trouvent tout le temps des défauts. Si vous aviez vu l'apôtre Paul, vous alliez dire, quelle créature. C'est l'homme que Dieu va utiliser. Paul, Moïse, c'est... Mais Dieu dit, c'est toi que je vais utiliser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu te sentes bien dans ta peau. Il faut que tu t'aimes comme Dieu t'a créé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de vivre dans des complexes d'une manière permanente et de dire, si j'étais mince comme si j'étais fat comme si j'étais big comme cela, je serais bien dans ma peau. Je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans ma peau. Je suis maigre comme un clou, mais je me sens bien dans ma peau. Je me sens bien dans ma peau. Parce que je suis une créature de Dieu, une créature merveilleuse, alléluia. Je n'ai aucun complexe, parce que je sais que Dieu a pris du temps pour me faire, Dieu a pris du temps pour me fabriquer. Pendant 9 mois dans le sein de ma mère, dans le secret, il a pris du temps pour me fabriquer. Et quand je viens dans le monde, quelqu'un va me dire, tu es moche. Je ne suis pas moche. Ce n'est pas ton regard qui m'importe, c'est le regard de Dieu. Ce n'est pas ton verdict qui m'importe, c'est le verdict de Dieu. Alléluia! Mes frères, un type très beau, mais très bégayeur, ça c'est dit, hein? Alléluia! Écoute-moi bien, frère. Je voudrais te répéter ceci. Cesse de vivre avec des complexes. Ce que Dieu a déclaré beau, comment peux-tu le déclarer moche? Dieu t'a créé tel que tu es là. Tu es une pièce unique dans la collection de Dieu. Il n'y a pas deux personnes qui soient comme toi au monde. Vous savez, les femmes, hein? Les femmes aiment s'habiller. Quand une femme s'habille, elle voit 3-4 personnes s'habiller de la même façon. Tu vas voir, elle va déclasser ça. Beaucoup de femmes aiment s'habiller unique. Vrai ou faux? Vous croyez que je ne connais pas? Je sais. Et c'est très bien parfois, mais écoute-moi bien. Pour t'habiller unique, tu aimes ça. Mais quand Dieu te dit que tu es une pièce unique, tu n'aimes pas ça. C'est bizarre. Je suis une pièce unique. Si on cherche quelqu'un, vous allez dire, mais celui-là lui ressemble. Oui, il me ressemble, mais il n'a pas la même composition des acides désoxyribonucléiques. Il n'a pas la même composition des acides ribonucléiques. Ce que vous appelez les ADN, les ARN. On parle trop d'ADN, mais il y a aussi les ARN, les ARN. Je vous en parlerai un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle vraiment à quelqu'un? Cesse de vivre avec des complexes. Si Dieu t'a déclaré beau, c'est que tu es beau. Si t'a déclaré belle, c'est que tu es belle. Dieu t'a fait tel que tu es, accepte-toi. Je ne dis pas que tu ne dois pas te maquiller un peu, maquille-toi. Je parle à quelqu'un. Si tu dois te faire une belle coupe de cheveux, fais ça, tout ce que tu veux, mais par essence, fondamentalement tel que tu es, tu te sens bien dans ta peau, tu t'aimes tel que tu es, parce que cela n'empêche quelque défaut que ce soit, ce qui paraît défaut à tes yeux, que ce soit sur toi, n'empêchera pas Dieu de t'aimer, n'empêchera pas Dieu de se servir de toi, n'empêchera pas Dieu de t'utiliser comme ambassadeur pour la parole de Dieu. Alléluia. Alors Dieu lui dit, revenons à notre texte. Verset 17. Dieu lui dit, Moïse, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Et dans la deuxième partie du verset 20, Moïse prit dans sa main la verge de Dieu. Alléluia. Écoutez au verset 17 ce que Dieu lui a dit. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. C'est-à-dire, en lui donnant la verge, Dieu lui dit, je te donne l'autorité, je te donne la puissance d'accomplir des signes. En d'autres termes, il dit à Moïse, je te rends capable d'accomplir des miracles, des prodiges et des signes. Exactement, Dieu a fait la même chose avec toi et moi. Écoute-moi bien, frère, parce que tu as toujours tendance à te sous-estimer et à croire que le diable est plus fort et plus puissant que toi. Je voudrais que tu ouvres bien tes oreilles ce matin. Dieu a donné à Moïse le bâton, l'autorité, la puissance d'accomplir des prodiges, des signes et des miracles. Jésus a dit à ses disciples dans Marc, c'est-à-dire à toi et moi, chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront, qui seront accomplis par ceux qui auront cru en mon nom. Par ceux qui auront cru. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça que j'aime. C'est-à-dire, Dieu ne fait exception de personne. Le pouvoir qu'il avait donné à Moïse pour accomplir des miracles devant le Pharaon, c'est exactement le même pouvoir qu'il t'a donné, toi, le jour où tu es devenu enfant de Dieu. Il a dit, voici les miracles, voici les prodiges, voici les signes qui seront accomplis, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Tel que tu es là, si tu vois un frère dans ta famille la nuit possédé, ne tremble pas, ne panique pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-lui, alléluia, voilà l'occasion pour moi maintenant de manifester devant le pharaon appelé le diable qui possède mon neveu, que le Seigneur est au-dessus de toute autorité. Jeune homme, au nom de Jésus, esprit impur, esprit de la sorcellerie, je vous ordonne de sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez voir les démons partir parce que Dieu a mis entre votre main. Il y a des gens, le premier réflexe, pasteur, c'est bien d'appeler le pasteur, c'est bien d'appeler les anciens, c'est bien, mais quand ils ne sont pas là, qu'est-ce que tu fais? C'est pourquoi j'ai dit, Dieu a mis entre nos mains des instruments, mais la plupart du temps, nous ne les utilisons pas. Imagine un militaire qui va en guerre, on lui donne une Kalachnikov pour aller se battre. Le général est resté dans les quartiers généraux pour donner des tactiques et des techniques par radio. Et ce type-là, il voit un militaire ennemi devant lui. Il a l'arme entre ses mains. Il dit, mon général, dis-moi, il y a un militaire ennemi, je fais quoi? Eh, général, il va me tuer pendant que toi, tu téléphones. Qu'est-ce qui va se passer? Dans l'entretemps, tu as quoi entre tes mains? Est-ce que c'est le moment d'appeler le général? La première des choses, c'est quoi? Alléluia! Parce qu'on a mis l'arme entre tes mains. Ce n'est plus mon général. J'attends les instructions. C'est la même chose. Le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que quelqu'un peut vraiment ressentir ce pouvoir? Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute l'armée de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia! Il a dit, Moïse, je mets entre tes mains le bâton de Dieu, le pouvoir et la puissance d'accomplir des miracles. Tu as ce pouvoir entre tes mains. Quand tu vois un membre de ta famille malade, impose-lui les mains. Quand tu vois ta femme, la tête qui lui tourne, commence à faire la prière d'autorité. Chasse tous les esprits qui sont en train de lui faire tourner la tête. Je parle à quelqu'un. Devant le pharaon, il lui a dit, je te donne ce pouvoir. Alléluia. Alléluia. Il dit, au nom de Jésus, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. L'une des armes que Dieu a mises entre nos mains, puissante, c'est le nom de Jésus. C'est le nom, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Une de mes filles est allée à l'hôpital pour accoucher il y a quelques années. Et puis il y avait des complications. On dit on doit lui faire une anesthésie générale. Quelques jours avant d'aller à la maternité, elle rêve qu'on lui dit on va faire une anesthésie générale. Et elle dit non. Dans le rêve, elle dit non. Si vous me faites l'anesthésie générale, je vais mourir. Je ne veux pas d'anesthésie générale. Faites une anesthésie locale. Et elle va à l'hôpital, il y a des complications. Et les médecins viennent, on dit on doit lui faire une anesthésie générale. Elle se souvient de ce que Dieu lui avait dit. Elle refuse. Mais on avait déjà commencé à lui faire ça. Elle n'avait plus la force de protester. Elle ne savait pas quoi dire. Et à un moment donné, elle dit, au nom de Jésus. Et quand elle a crié le nom de Jésus, les médecins stoppent tout, arrêtent tout. L'instant d'après, elle accouche. Le médecin directeur revient, regarde et dit, madame, si on t'avait fait l'anesthésie générale, tu n'aurais jamais eu suffisamment de force pour pousser et accoucher. Tu allais mourir et le bébé aussi avec toi. Mais pour sortir de la léthargie dans laquelle elle se trouvait, qu'est-ce qui était remonté dans sa bouche? Le nom de Jésus. Juste ce nom-là. Ce nom n'est pas ordinaire. C'est pourquoi Pierre et Jean pouvaient dire aux paralytiques qui étaient devant la porte de la belle, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi, prends ton lit et marche. Devant ce nom, tous genoux fléchis, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Devant le nom de Jésus, c'est une arme puissante. Mais je n'ai pas encore parlé d'âme. Ça, ce n'est qu'une introduction. Que fais-tu? Il y a des gens, quand il est devant des situations, « Ah, tata, moi aussi !»« Oh, ma tante !»« Maman, 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 maman !» C'est bien d'appeler ta mère. Parfois, il y a des gens qui appellent leur maman qui est décédée. Elle ne peut rien faire pour toi. D'ailleurs, on n'invoque pas les morts. En disant, maman, 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 papa, 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 t'as là, mon père, maman, qui sont décédés, tu es en train de faire, d'invoquer les morts. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que tu dois dire? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia. Même quand la douleur est là, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Rien que ça. La Bible dit le nom de Jésus est une tour forte. Le nom de Jésus est un rempart. Le nom de Jésus est un bouclier. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous boirez des breuvages mortels. En mon nom, dit la parole du Seigneur. Alléluia. Il lui a dit, prends le bâton en main. Dieu ne l'a pas envoyé les mains vides devant Pharaon. Dieu ne l'a pas envoyé dépourvu devant Pharaon. Il lui a donné le pouvoir et l'autorité. Et je voudrais déjà te dire que le nom de Jésus est une arme. Proclame le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Oh, crie le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, Bandeko? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le nom de Jésus? Vous comprenez pourquoi la Bible dit tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain? Toi, tu fais un faux pas. Ah, Yesu. On ne dit pas ça. Tu fais un petit faux pas. Oh, Jésus. Il n'y a pas ça. Le nom de Jésus, ce n'est pas dans des faux pas. Quelqu'un veut te dire, je te dis la vérité. Dis, au nom de Jésus, je te dis la vérité. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne sais pas pourquoi nous, les Africains, nous sommes comme ça. D'abord, il fait ça. Oh Seigneur, mais c'est quand tout va mal, alléluia, c'est quand l'ennemi est au devant de toi, c'est quand tu es face à face avec Pharaon. Vous comprenez pourquoi les jeunes David, quand il avance au devant de Goliath, il dit, tu viens au devant de moi avec les javelots, la lance, l'épée, tout ce que tu peux t'imaginer, mais moi je m'avance au devant de toi avec quoi? Il n'a même pas dit avec des pierres, il a dit je m'avance au devant de toi, au nom de l'Éternel dont tu as injurié les armées. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Dieu a mis entre nos mains des armes. Alléluia. Et parmi ces armes, il y a le nom de Jésus. Dieu dit à Moïse, je t'ai rendu capable d'accomplir des prodiges. Oh, j'aime beaucoup ça. Dieu nous a rendus capables d'accomplir beaucoup de choses par la puissance qui agit en nous. Alléluia. Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu nous a rendus capables d'accomplir de bonnes œuvres. Dieu nous a rendus capables de comprendre la volonté de Dieu. Dieu nous a rendus capables. Le jour où le Saint-Esprit est venu habiter en nous, nous ne sommes plus, nous ne sommes plus, nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes devenus des créatures différentes. Un jour, dans notre église, il y avait une permanence. On priait 24 heures sur 24. Et il y avait des tours, des shifts, comme on dit ici. Et un jour, c'était le tour de mon épouse avec leur équipe. C'était la première fois qu'on leur amenait un type possédé jusque-là. Et comme il n'y avait personne, à la permanence, il n'y avait que ces sœurs-là, ils ont dit, ah, mais on va faire quoi maintenant? On va prier, hein? On dit, type, mets-toi là.
Quand elles ont commencé à prier, dit au nom de Jésus, la sœur qui était là tombe, crie au nom de Jésus. Vous voyez, quand elles ont vu ça, elles étaient tellement encouragées. Et au retour, j'ai vu mon épouse, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que vous. J'ai dit, il n'y a pas que nous encore. Alléluia. Il n'y a pas que vous, il n'y a pas que vous. Bref. Alors j'ai dit, mais il n'y a pas que nous en quoi? Parce que nous les frères, on avait l'habitude, on imposait les mains, on chassait les démons. Alors quand ils ont vu ça, ils sont venus, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que vous. J'ai dit, quoi? Mais nous aussi on a chassé les démons. J'ai dit, mais c'est biblique. Le Seigneur dit, ne vous réjouissez pas de ce que vous chassez les démons, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Ça veut dire chasser les démons est quelque chose qui est tout à fait normal dans la vie d'un enfant de Dieu, parce que Dieu t'a rendu capable par le pouvoir et la puissance de son esprit. Et parle à quelqu'un. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas demander l'aide de ton pasteur, le soutien de ton pasteur. Non! Mais il y a des moments, c'est là que tu mets la personne au devant de toi et que par le don et par le nom de Jésus, tu lis les esprits impurs, tu chasses, tu brises la malédiction, tu renvoies tout cela par le nom de Jésus-Christ dans les lieux arides et tu vois la victoire. Dieu a mis entre nos mains sa puissance, son pouvoir et son autorité. Alléluia! Alléluia! Ça ne vous réjouit pas de savoir ça? Et... Mon Dieu. Regardez, revenons un peu dans notre texte. Verset 18. Oh frère, s'il te plaît, arrête carrément cela. Éteins-le complètement, frère. À l'église, on met ça soit sur vibreur, soit qu'on l'arrête complètement. Ça va. S'il vous plaît, frère. Alléluia. Exode chapitre 4, verset 18. Moïse s'en alla, et de retour au pays de Jéthro, auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, « Laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. » Jéthro dit à Moïse, comment? Et verset 19, « L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie, sont morts. Amen. Comme je vous ai dit, Moïse est parti loin dans le pays des Madian. Il a séjourné pendant des années. Maintenant, il s'est dit, je vais quand même rentrer en Égypte pour voir si mes frères, mes compatriotes sont toujours en vie. La première chose que Moïse fait, écoutez-moi bien, il va voir son beau-père, Jéthro. Il dit, beau-père, je voudrais rentrer en Égypte. Son beau-père connaît l'histoire de Moïse. Il sait que s'il avait fui l'Égypte, c'est parce qu'il avait tué un Égyptien. C'était arrivé aux oreilles du grand pharaon qui a dit, toi, tu as fait ça, je vais te tuer aussi. Il sait. Les années ont passé et il va le voir, il dit, moi je veux rentrer en Égypte. Pour voir si mes compatriotes sont en bonne santé. Il demande la vie de quelqu'un. Et son beau-père lui dit, va en paix, il n'y a pas de problème. Il vient maintenant vers Dieu. Il dit, Dieu, Seigneur, est-ce que je dois quitter maintenant le pays des Madian et rentrer en Égypte? Dieu lui dit, tu peux maintenant rentrer en Égypte. Rentrer en Égypte pour Moïse était une décision importante. Sa vie dépendait de cela aussi. Est-ce que vous me suivez? Avant donc de se résoudre à faire ce voyage, regardez ce que Moïse fait. Il consulte Dieu et il consulte son beau-père. Je parle à quelqu'un. Mon frère, quand tu as une grande décision à prendre, concernant ta vie, ne la prends pas toujours seule. Demande l'avis d'au moins deux personnes. Je dis au moins. C'est ce que la Bible nous apprend. Demande l'avis de Dieu. Seigneur, est-ce que je dois épouser cette jeune femme? Est-ce que je dois épouser ce jeune homme? Est-ce que c'est ta volonté? Ne venez pas me dire des choses souvent comme je les entends depuis des années. Pasteur, on prie pour chercher la volonté de Dieu. Mais tu as déjà dit oui. Et tu veux simplement que moi je fasse quoi? Que je confirme ton oui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant de prendre une décision importante concernant ta vie, demande l'avis d'au moins deux personnes. Prie. Demande à Dieu. Dieu te dira d'une manière ou d'une autre. Va voir un proche en qui tu as confiance. Demande-lui son avis, qu'il te conseille. Je ne comprends pas pourquoi dans nos églises, les gens n'aiment pas les conseils. Un grand homme comme Moïse, à qui Dieu parlait directement, avait besoin d'un homme pour le conseiller. Le conseil qu'il avait reçu de l'homme a été approuvé par Dieu. Il consulte deux, mes frères et sœurs, cessons d'être, moi j'ai décidé comme ça. Et puis on se fait appeler enfant de Dieu. Quand quelqu'un te donne un conseil, écoute. Il te fait un soir, il te dit des choses, écoute. S'il a raison, change. Fais ce qu'il te dit. Ta vie, ta bénédiction en dépendent. Il y a des gens, ils n'ont fait qu'à sa tête, à lui-même. Il est pharaon, c'est comme ça que parfois il est brisé. Tout d'un coup, et on commence à dire, c'est un tel qui est sorcier, un tel qui est... Il y a des châtiments qui viennent simplement de la part de Dieu à cause de l'endurcissement. Moïse va voir son beau-père Jéthro et il lui demande conseil. Même quand tu es marié, vous savez, il y a des hommes, même quand ils sont mariés, il a une femme, il fait des choses sans même demander l'avis de son épouse. Parce qu'il vous dit, je suis l'homme. Il y a des choses, c'est vrai, on peut faire sans demander l'avis, mais il y a certaines choses importantes qui nécessitent que tu informes ton mari, que tu informes ton épouse, que vous en parliez, que vous dégagiez un consensus, comme on dit en Belgique. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'écoute pas les conseils, on n'écoute pas sa femme. Parfois, on va se tourner vers des amis qui ne peuvent vous dire que ce que vous attendez qu'ils vous disent. Mes frères, ce n'est pas comme ça être enfant de Dieu. N'en fais pas qu'à ta tête, ne dis pas, comme nous avons dit, je me suffis à moi-même, je sais tout, je connais tout. Oh, si j'en parle à mon épouse, elle n'y comprendra rien. Les histoires de bourse là, acheter une villa au bord de la mer, elle n'y comprend rien. Non, dis-lui quand même. Demande-lui son avis. Je parle à quelqu'un. Maintenant, l'église est calme. Parce que j'ai touché un point sensible. Les gens ce que la Bible appelle, ont eu un coup roide. Coup raide. C'est-à-dire, quand il a mis ça comme s'il ne peut pas toucher, le coup est comme ça, raide. Dieu veut que tu demandes conseil à quelqu'un. Tu as une femme à tes côtés, demande-lui conseil, chérie. Voici, j'ai un projet comme ça, je veux faire ça. Qu'est-ce que tu penses? Mon mari, voilà, ça, qu'est-ce que tu penses? Vous savez, il y a des gens, toujours fait accompli, boum, j'ai déjà fait ça. Ah, tu as fait ça? Oui, les surprises, c'est aussi bien. Il y a des choses qui sont des surprises, qui sont bien. Tu ne vas quand même pas dire à ton épouse, écoute, je vais t'acheter un bijou surprise. Tu ne vas quand même pas faire ça. Tu achètes, tu emballes, tu mets, tu déposes sur les lits et tu sors pour ne pas vivre l'émotion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh mes frères, j'aimerais tellement avoir des hommes comme ça, des hommes romantiques, des hommes de bien dont les épouses peuvent dire non, je suis bien avec lui. Pas des hommes qui sont rébarbatifs, méchants, secs. Quand ils te cassent, ils cassent. Frère, un peu de douceur. Dites amen. Tout comme il y a des femmes aussi, quand elles parlent, elles te disent un mot. Tu te dis, où est-ce qu'elle a pris? Ça saigne dans ton cœur. Alléluia. Ma sœur, un peu de douceur. demande la vie. Il va voir Jéthro, il dit, beau-père, je voudrais retourner en Égypte. Mon beau-père lui dit, va en paix, va voir Dieu, Seigneur. Vous savez, la Bible dit dans le livre des Proverbes au chapitre 11, le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbes chapitre 11, verset 14. Le salut est dans un grand nombre des conseillers, mais des bons conseillers. Dans nos églises, quelqu'un peut avoir 23 conseillers. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris le chiffre 23. Mais il en a partout. Tourne-toi vers des gens sûrs, qui ont l'expérience, qui t'aiment, qui te diront la vérité, qui te reprocheront selon la vérité, qui te conseilleront selon la vérité. Et tourne-toi vers Dieu. Je parle à quelqu'un. Quand tu viens me voir, ne viens pas me voir pour me dire, pasteur, conseille-moi, parce que tu as déjà un conseil, ta décision arrêtée. Non! Je vais le sentir et je vais te dire, tout ce que tu fais est bon. Un jour, un frère est venu me voir, il me parle, il dit, pasteur, quel est ton avis? Je lui ai dit, frère, tu veux vraiment que je te dise la vérité ou bien que je te dise ce que tu veux entendre? Je lui ai posé la question comme ça. Je ne vais pas citer son nom, il est là, il sait. Il dit, tu veux que je te dise la vérité ou bien tu veux que je te dise ce que tu veux entendre? Il est resté calme. Il sait. Il parle à quelqu'un. Pourquoi? Je sentais que dans sa demande de conseil, il m'orientait vers ce qu'il voulait. Va devant le Seigneur. Père, dis-moi, dois-je rentrer dans ce pays où ma tête a été mise à prix? Toi qui connais toutes choses, le présent et le futur, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que ce voyage, je dois le faire? Est-ce que ces champs, je dois l'acheter? Est-ce que cette entreprise, je dois la monter? Va voir un spécialiste. Voici mon projet. Tu crois que dans ces conditions comme ça, oui, je compte sur Dieu, mais sur le plan purement économique, macro, micro-économique, dis-moi un peu, regarde ceci, cela, il te conseille. Quand tu as des problèmes dans ton foyer, quand tu as des problèmes dans ta famille, va voir des gens qui peuvent te conseiller pour que tu changes d'avis, pour que la paix soit entre vous. Et que la bénédiction de Dieu vienne. C'est ça, ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. Et Dieu lui dit, va. Jéthro lui dit, va. Vous voyez, quand vous avez l'approbation de Dieu, vous avez le feu vert de Dieu, même si plus tard il y a des obstacles, Dieu lui-même se chargera de les balayer. Parce qu'il t'a dit, va. Il t'a donné son feu vert, il t'a donné le visa. Mais nous, on va d'abord, quand ça cale, quand ça bloque, on revient. Seigneur, Seigneur, oh mon Dieu, il y a des choses qu'on aurait pu éviter si on avait demandé l'avis de Dieu. Il y a des choses, des souffrances dans lesquelles nous nous sommes mis simplement parce que nous n'avons jamais écouté les conseils des autres. Nous ne voulons en faire qu'à notre tête. Frère, un enfant de Dieu, c'est pas ça. C'est pas ça, s'il te plaît. Je t'en prie, un enfant de Dieu. C'est-à-dire, il y a des moments. Vous savez pourquoi certaines personnes n'aiment pas écouter les conseils? Ils ont l'impression de perdre la face. Et alors, si tu perds la face, où est le problème? Si tu n'as pas tort, on te dira tu n'as pas tort. Mais si tu as tort, on va te dire tu as tort, frère. Regarde comment il faut procéder. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu vas arranger et faire les choses de cette manière-là, la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Tu vas même m'oublier, moi qui t'ai conseillé. Mais gloire au Seigneur parce que j'ai fait mon boulot. Et toi, tu as écouté les conseils qu'on t'a donnés. Mais si tu es là, braqué, tu n'en fais qu'à ta tête, tu n'es pas dans la pensée et dans la volonté de Dieu. Alléluia! Alléluia! Moïse est allé demander, et voilà. Dieu lui dit, va. Nous sommes maintenant au verset 20. Alléluia. Exode chapitre 4, verset 20. 19. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes. J'ai déjà parlé de ça la fois passée, n'est-ce pas? Quand Dieu te bénit, apprends aussi à bénir ta famille. N'est-ce pas? Dieu te bénit, toi tu roules dans une voiture, toi tu es bien habillé, ta femme est toujours mal habillée, tes enfants sont toujours mal habillés. Ton mari, toi, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont bénies. Hein. Il y a parfois des femmes, elles sont bénies, elle a presque tout. Et puis le mari, lui, il n'est pas béni comme ça. Et la femme doit lui faire sentir qu'ici à la maison, c'est moi. Elle va dans un magasin, elle achète tout ce qu'elle veut, elle revient. Le mari est là à la maison. Il regarde sa femme avec des yeux qui demandent. Vous savez, il y a un regard qui demande. Vous pouvez ne pas prononcer des paroles, mais il y a un regard qui dit, est-ce que moi aussi? Et là, la femme tourne le dos et dit, quand tu es béni, écoute-moi bien, élève aussi ton mari. Je ne parle pas des jeunes filles qui donnent de l'argent à un homme pour qu'il l'épouse. Vous savez que j'ai toujours été contre ça, ce n'est même pas biblique. Il vient, il te dit, oh, je veux t'épouser. Ok, mais attends. Et c'est lui qui te dit, mais j'ai vu de l'argent sur ton compte. Va prendre, comme ça je vais t'épouser. Et toi, tu prends, chérie, prends. Et le type, il vient avec des costumes, des abacos devant les parents, avec ton argent pour t'épouser. Ça ne se passe pas comme ça. Laisse-les trimer, travailler, souffrir comme Jacob, même 7 ans qu'il apporte la dot. Là, il comprendra qu'il ne t'a pas ramassé, que tu ne l'as pas acheté, qu'il ne t'a pas acheté, qu'il ne t'a pas épousé avec ton propre argent. Moi, je veux bien que tu lui donnes toute la richesse que tu as quand tu es marié, parce que là, c'est commun. Est-ce que quelqu'un comprend la nuance ici? Parce qu'il y a des gens, ils vont sortir, ce pasteur, c'est un méchant. Il dit, séparez vos richesses. Je n'ai rien dit d'un tel, c'est toi qui ne comprends pas. Alléluia. Quand tu es béni, élève ceux qui sont avec toi. Ta femme, élève-la, honore-la, loue-la. Ton mari, parle du bien. Il y a des femmes, quand elles parlent de son mari, c'est comme si elles parlaient d'un ex-copain. C'est un méchant, mon mari là que vous voyez. Yeah! Et puis elle dit, mon mari. Et puis après, elle dénigre son mari. Non, quand tu es béni, élève ton mari. Donne-lui ce que tu peux lui donner. Tu es béni, élève ta femme. Je continue, j'ai déjà parlé de ces choses-là. Il y a des gens qui comprennent pas ces choses, mais c'est leur problème. Le Saint-Esprit va bien, bien leur parler. Verset 20. Il prit dans sa main la verge de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, écoutez, ah, j'aime ce texte. Au verset 19, écoutez ce que Dieu dit. L'Éternel dit à Moïse, en Madian, va. Retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont. Tous ceux qui en voulaient à ta vie sont. Ouvrez vos Bibles dans Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2. Versets 19 à 20. Je vais vous montrer la même chose. Matthieu, chapitre 2, versets 19 à 20. Quand Hérode fut mort, si vous ne savez pas trouver vite, ce n'est pas grave. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi. » Prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. La Bible est complète. Hein? Ceux qui en voulaient à ta vie, ô Moïse, ils sont morts. Ceux qui en voulaient à la vie de Jésus sont morts. Les temps favorables étaient là. Le temps favorable. pendant plusieurs années, Moïse ne pouvait pas revenir en Égypte. Joseph, Jésus, Marie ne pouvaient pas revenir en Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Les années peuvent se succéder. Il y a obstruction, il y a obstacle devant toi pour que tu gagnes, tu hérites, tu possèdes ta bénédiction. Les années peuvent passer, mais il y a le jour favorable qui viendra. Le jour favorable viendra. Le temps où les obstacles seront levés. Dites Amen. Le temps où les obstacles seront levés va arriver. Le temps où tes ennemis seront balayés va arriver. Le temps où les montagnes seront aplanies va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que tu possèdes ton territoire et ton héritage. Le temps où les collines seront abaissées va arriver. Le temps où les vallées seront comblées va arriver. Le temps où les murailles vont s'affaisser arrive. Le temps où les eaux vont se couper arrive. Le temps où l'arc et les chevaux de tes ennemis seront précipités dans la mer arrive. Ce temps-là est programmé par Dieu. Tu ne resteras pas indéfiniment en dehors de ton héritage. Tu ne resteras pas indéfiniment en dehors de ton territoire. Tes ennemis seront balayés. Les montagnes seront abaissées. Les eaux seront coupées. Et Dieu te dira, voici le jour favorable. Voici le jour du salut. Et c'est pourquoi nous avons chanté en son temps. En son temps. En son temps, mon Dieu agira, je sais qu'il agira, il agira. Le jour il me dira, maintenant, ceux qui créaient les obstacles ne sont plus. Les barrières qui étaient devant toi sont enlevées. Voici le jour, le grand jour du salut, ça arrivera. Voilà quelqu'un? Pourquoi je vais me désespérer? Je vais me désespérer, pourquoi? Parce que je sais que dans l'agenda de Dieu, un jour, les obstacles seront écartés de ma route. Mes ennemis, ne sois pas mon ennemi, parce que je ne suis pas ton ennemi. Mon ennemi n'est pas encore né. Il va naître en 2083-84. C'est-à-dire au moment où je ne serai plus là. Mais si tu es mon ennemi, c'est ton problème. Parce que j'élève les mains pures devant le Seigneur. Et Dieu va te balayer. Je te verrai balayer. J'ai les mains innocentes. Pourquoi je t'en voudrais? Pourquoi? Pour quelle raison? Et pourquoi tu en veux à quelqu'un d'autre? Le temps où Dieu va te balayer n'est pas loin. Le temps où le jugement de Dieu va tomber sur ta famille n'est pas loin. Vous savez, la plupart des temps, mes frères et sœurs, nous avons l'habitude, la fâcheuse habitude de voir les diables partout. Parfois, c'est le jugement de Dieu qui sévit dans nos vies à cause de l'endurcissement de notre cœur. Il a averti et on a dit, moi, je suis le grand pharaon. Qui est Dieu? J'en fais à ma tête. Et Dieu dit, ah bon? Il frappe. Il frappe. Il frappe. Il peut ne pas te frapper, toi. Il frappe tes enfants, il frappe ta famille, il frappe quelqu'un. Nous avons aussi la fâcheuse habitude, quand un malheur arrive à quelqu'un, on dit, oui, Dieu le punit. Non, mes frères, un peu de compassion. Les chrétiens, difficile à trouver un équilibre. Quand un malheur arrive, on dit, voilà. C'est bien fait pour lui. Ne te réjouis jamais du malheur de quelqu'un. Quand Dieu frappe, mets-toi à l'écart de cette histoire. C'est un problème entre Dieu et l'individu. Ça n'a rien à voir avec moi. Alléluia. Il dit, ceux qui en voulaient. C'est exactement les mêmes paroles qui avaient été prononcées par l'ange quand il est venu voir Joseph. Il dit, oh Joseph, vous pouvez maintenant retourner. Hérode est mort. Et ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant, ils sont déjà morts. Le terrain est libre. Le passage est déblayé. On a déjà déroulé les tapis rouges. Vous pouvez maintenant rentrer en Israël. Un jour, Dieu te dira la même chose. Les tes ennemis sont là. Ils bloquent le passage. Mais Dieu lui-même s'occupera d'eux et se tournera vers toi pour te dire ceux qui bloquaient ta bénédiction. Je les ai balayés. Tu peux maintenant posséder ton héritage. Ça viendra. Dites Amen. Dites Amen. Tu peux dire, il y a un jour favorable. Les jours favorables pour moi existent. Ça existe. Ah, je n'ai pas le temps, il faut que j'aille vite. Verset 22. Du chapitre 4. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je voudrais vous dire une chose là-bas. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon ceci, écoutez-moi bien. Va lui dire qu'Israël, le peuple d'Israël, est mon fils, mon premier-né, c'est-à-dire mon héritier. Pendant ce temps-là, je vous pose la question. Pharaon appelait le peuple d'Israël quoi? Dieu appelle Israël son fils, son premier-né, mais Pharaon appelle Israël mon esclave. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Oh, ok, c'est beau. Il dit, va lui dire qu'Israël est mon fils, mon premier-né, mon héritier. Pharaon dit, Israël est mon esclave. Je ne vais pas le laisser partir parce que c'est mon esclave. Il doit rester esclave jusqu'à la fin de ses jours. Mon frère, ma sœur, même si les hommes, même si le monde te méprise, même si le monde te considère comme un esclave, un homme sans valeur, une femme de rien, une femme sans valeur, Dieu, lui, il te voit autrement. Est-ce que quelqu'un a saisi? Pharaon dit, c'est mon esclave, mais Dieu dit, c'est mon fils. Le fils hérite, l'esclave ne possède jamais rien. Au même moment où Pharaon considère Israël comme son esclave, Dieu donne un autre verdict. Il dit, il n'est pas esclave pour moi, Pharaon. C'est pourquoi je ne vais pas le laisser indéfiniment sous ton joug, sous ton autorité. Je vais te forcer à le libérer parce que c'est mon fils, parce que c'est mon premier-né. Alléluia! Même si le monde te méprise, même si les gens dans ta propre famille, on ne t'accorde aucune valeur, peut-être parce que tu n'es pas riche, peut-être parce que tu n'as pas ceci, peut-être parce que tu n'es pas ceci, même si c'est le cas, il faut vivre en fonction du regard de Dieu sur ta vie. Les autres te méprisent, mais Dieu te considère. Les autres disent que tu n'as pas de valeur, mais Dieu te dit que tu as de la valeur à ses yeux. C'est pourquoi il ne t'a pas racheté par de l'or ou de l'argent. Il ne t'a pas racheté par des pierres précieuses, mais il t'a racheté par le sang de Jésus. Parce que tu es une perle rare, parce que tu as de la valeur à ses yeux. Ne vis pas selon les verdicts des hommes, ne dis pas selon la vie des hommes, vis selon la vie de Dieu. Si Dieu me déclare vainqueur, c'est que je suis vainqueur. Si Dieu me déclare héritier, c'est que je suis héritier. Si Dieu me déclare vaillant héros, c'est que je suis vaillant héros. Même si présentement les choses se présentent autrement, je vis en fonction de ce que Dieu déclare que je suis. Les hommes auront tendance à te ridiculiser, à te minimiser, à te considérer comme un rien. Ne souffre pas de ça. Est-ce que Dieu t'a considéré comme un rien? Les hommes ont dit, Pharaon a dit, c'est mon esclave. Dieu dit, c'est mon fils, mon premier-né. Va lui dire, je vais le forcer. Je vais le forcer. C'est comme ça que vous voyez, certaines personnes, ils les regardent et disent, Otouli. Vous savez ce que ça veut dire, Kotoula? Kotoula, c'est dit, tu n'es pas encore marié, ça fait des années. Et attends, c'est toi qui vois ça. Tu ne vois pas la bénédiction qui vient. Vous savez, il y a des gens qui sont méchants. Et puis, ils viennent à l'église. C'est pourquoi le dimanche passé, je disais qu'il y a des satans ici, des démons. Vous avez dit, ah non, pasteur. Je vous dis, c'est biblique. Toute personne qui veut s'opposer à l'accomplissement de la volonté de Dieu est un démon. C'est un opposant à Dieu. C'est le diable. Considère-moi comme tu veux. J'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. Quelqu'un te regarde et dit, c'est un mouindou, il est noir. Et je souffre de ça, mais je suis noir, je suis bien, je suis beau, je suis bon, je me sens bien. C'est le verdict de Dieu qui compte. Il dit, il y a l'onction en elle. Il y a l'onction dans cette femme noire. Et il y a la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui compte? Il dit, dis-lui, c'est mon premier-né, c'est mon fils. Laisse-le aller. Alléluia. Vous voyez, je n'ai même pas encore parlé des armes. Je vais parler une autre fois. Parce qu'il faut que je m'arrête quand même. Je peux prêcher ça jusqu'à la fin de l'année. Mais je vais changer. Mais je parlerai une prochaine fois des armes.
Alléluia.
Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons été sauvés pour servir. Servir Dieu, pas les hommes. Les hommes, quand je dis les hommes, on peut se mettre au service des hommes de Dieu. Les hommes, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire ce que toi tu veux. Il peut t'entraîner même dans le mal. Je disais il y a quelques jours ici, ah oui, tu es Congolais comme moi. Il faut qu'on fasse ça. Congolais, tu iras en enfer parce qu'il est Congolais. Mais qui sait pas, les gens ne comprennent rien à la parole de Dieu. Le salut est individuel. Je suis sauvé pour servir mon Dieu. Si tu es avec moi dans la... Deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Si tu n'es pas dans la même vision que moi, tu peux t'écarter, va faire ta vision. Mais moi, je suis le Seigneur et je sers le Seigneur. Je sais pourquoi je le fais. Il y a des gens qui doivent se dire, le pasteur crie beaucoup, vous savez pas ce que Dieu est pour moi, a fait pour moi et fera pour moi. Vous ne le savez pas. Mais moi, je le sais. Et je voudrais te transmettre un tant soit peu, te communiquer ce feu de ce Dieu qui brûle en moi pour que tu l'aimes, pour que tu le serves, pour que tu vives selon sa parole. On t'insulte, on te calomnie, mais tu sais ce que Dieu dit pendant ce temps. Pendant qu'on t'insulte, Dieu proclame des louanges sur toi. Pendant qu'on te calomnie, Dieu parle des éloges sur toi. Parce qu'il connaît la nature de sa relation avec toi. C'est ça qui importe. Le reste n'a pas d'importance. Alors je voudrais dire à quelqu'un, pour me résumer, alléluia, n'écoute pas le monde. Je voudrais dire à quelqu'un, le temps favorable est déjà programmé. Je voudrais dire à quelqu'un, ton passé ne compte pas devant le Seigneur, parce que tu es devenu une nouvelle créature. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Prends simplement le bâton de Dieu en main et va te présenter devant tes ennemis. Tu auras la victoire. Courbons nos têtes dans la prière.